Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Les images de la lumière et des ténèbres prennent une place importante dans la Bible. Yann et son invité Étienne vont expliquer leur signification.
Nous sommes en train de réfléchir sur le sens biblique des images de la lumière et des ténèbres. Et nous avons ainsi appris que Dieu est lumière, tout comme Jésus-Christ, son Fils. Car Jésus est la lumière qui brille dans un monde où l'humanité sombre dans les ténèbres. Les ténèbres représentent le péché et le mal, l'ignorance et l'aveuglement. Cependant, Étienne, vous avez mentionné la dernière fois qu'il est possible de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu. Nous allons en parler aujourd'hui, me semble-t-il.
Oui, c'est exact. L'un de mes moments préférés de la journée est l'aube. Car dès l'aube, l'obscurité de la nuit commence à se dissiper et nous pouvons voir les premiers rayons du soleil, éclairant peu à peu les formes qui nous entourent. C'est cette lumière naissante qui nous permet d'apprécier les paysages et leur beauté. Aussi, avec l'aube, disparaissent les peurs, les angoisses suscitées pour certains par la nuit. Et comme vous l'avez dit, la Bible utilise le passage des ténèbres à la lumière comme une image pour montrer le salut que nous pouvons recevoir de Dieu. Écoutons la lecture de quelques textes bibliques évoquant cette image dans 1 Pierre au chapitre 2, les versets 9 à 10.
Célébrez celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce.
Ensuite, Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13.
Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé.
Et enfin, Éphésiens chapitre 5, verset 8.
Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière.
Il est vrai que tous ces versets parlent d'un changement radical et merveilleux, pouvant être vécu parce que Dieu est tout-puissant. Et l'image de la lumière et des ténèbres est parlante, car nous disons par exemple « c'est comme le jour et la nuit », pour évoquer une différence marquante amenée suite à une comparaison. Cependant, à la lumière des textes que nous venons d'écouter, deux questions sont à poser. D'abord, en quoi l'image de la lumière nous aide-t-elle à mieux comprendre le salut que Dieu donne? Et ensuite, comment passer des ténèbres à la lumière? Autrement dit, comment bénéficier du salut que Dieu offre?
Répondons d'abord à la première question. En quoi l'image de la lumière nous aide-t-elle à mieux comprendre le salut que Dieu donne? Pour cela, je voudrais mentionner trois choses. D'abord, souvenez-vous que la lumière représente la vérité divine, tandis que les ténèbres désignent l'ignorance et l'aveuglement des hommes quant à cette vérité.
Oui, je m'en souviens. Vous avez ajouté que Dieu désire se faire connaître à nous. Il se révèle à nous, nous éclaire de telle sorte que nous pouvons saisir les vérités le concernant.
C'est exact. Le salut commence à être à l'œuvre dans la vie d'une personne lorsque Dieu, par sa lumière qui est la vérité, chasse de son esprit les ténèbres qui la tenaient dans l'ignorance. Ainsi, cette personne entre dans la lumière de Dieu à partir du moment où elle saisit les vérités divines. Et Dieu agit en elle par pure grâce. Parce qu'il est puissant, Dieu a le pouvoir de chasser l'aveuglement spirituel des hommes, qui les empêche de voir sa lumière. Leur intelligence ainsi éclairée, les hommes ont un nouveau regard sur Dieu et le monde, sur leurs propres conditions et la manière d'en sortir. L'image de l'aube, évoquée tout à l'heure, nous aide à comprendre ces choses. Si nous arrivions dans un village la nuit, nous ignorerions à quoi il ressemble. C'est seulement avec l'arrivée de l'aube que nous le découvririons réellement. Il en est de même avec la lumière de Dieu. Elle seule nous éclaire sur notre condition et l'éternité.
Merci Étienne. Quelle est à présent la deuxième pensée que vous voudriez ajouter sur le salut et l'image de la lumière?
Comme l'aube peut dissiper les inquiétudes pour certains suscitées par la nuit, Dieu a le pouvoir de délivrer les hommes des ténèbres spirituelles dans lesquelles ils sont plongés comme de toutes leurs conséquences.
Pouvez-vous expliquer davantage?
Oui. Durant l'émission où nous avons parlé des ténèbres, nous avons appris que cette image représente le péché qui nous a servi et aussi la condamnation, le jugement qui attend le pécheur. Elle évoque aussi le fait que si nous demeurons loin de Dieu, nous restons sous l'influence de mauvais esprits. Elle symbolise encore l'enfer où ceux qui s'opposent à Dieu iront.
Et Dieu peut nous délivrer de toutes ces choses?
Oui, car en nous accordant son pardon, Dieu lève la condamnation qui pèse sur nous à cause de nos péchés. Par sa puissance, il nous libère de l'emprise des esprits mauvais qui nous aveuglent spirituellement, et il nous accorde le privilège de vivre éternellement avec lui.
Ainsi, nous pouvons comparer le salut de Dieu à la lumière, car par la délivrance qu'il nous accorde, Dieu chasse les ténèbres qui jusqu'alors régnaient dans nos vies. Voulez-vous ajouter une troisième chose sur le salut que Dieu offre?
Oui, Dieu permet de passer des ténèbres à la lumière. Or, nous avons appris que Dieu est lumière. Comme nous le savons maintenant, cette image évoque les perfections de Dieu et son désir de se révéler aux hommes. Ainsi, si nous venons à sa lumière, cela signifie qu'il nous accorde la grâce de le connaître et de jouir d'une nouvelle relation avec lui. C'est en nous approchant de Dieu que nous découvrirons à quel point ses attributs sont parfaits, son amour et sa grâce, sa fidélité et sa patience, sa souveraineté et sa puissance se voient dans toutes ses œuvres. Dieu est digne de confiance. Avec lui, notre avenir est entre de sûres mains.
Passons maintenant à la deuxième question. Comment donc passer des ténèbres à la lumière? Comment bénéficier du salut que Dieu offre?
Citons d'abord quelques versets trouvés dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 que nous avons déjà lu. Jésus déclare « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même enfant de la lumière. Celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. »
Ces versets prouvent bien que Jésus est la lumière de Dieu, venu dans le monde, pour libérer les hommes de l'emprise des ténèbres. Je constate aussi que croire en Jésus suffit pour entrer pleinement dans la lumière de Dieu. Cela est-il si simple? Suffit-il tout simplement de croire en Jésus pour recevoir un si grand salut?
Oui, croire en Jésus suffit pour recevoir un si grand salut. Croire en Jésus, c'est croire en la véracité de ses paroles et en son sacrifice accompli sur la croix. Croire en Jésus, c'est reconnaître qu'il est Dieu parmi nous. Croire en Jésus, c'est lui faire confiance, c'est reconnaître que son enseignement est vrai, et c'est vouloir mettre en pratique sa parole. Lire la Bible et écouter ce qu'il enseigne sont indispensables si l'on veut progresser dans la connaissance de Dieu et jouir de son amitié et son amour pour nous, de véritables lumières pour nos vies.
Nous remercions Étienne pour sa participation et nous vous encourageons à vous tourner vers le Seigneur Jésus, qui a le pouvoir de délivrer les hommes des ténèbres.
À présent, Charles va continuer la série de méditations bibliques portant sur les paroles de Jésus, connues sous le nom des Béatitudes. Mais d'abord, Hélène va lire l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 7.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
La dernière fois, nous avons ainsi défini la miséricorde. La miséricorde consiste à agir envers une personne non selon ce qu'elle mérite de recevoir, mais selon ce qu'elle a besoin de recevoir. Ainsi, la miséricorde consiste non seulement à éprouver des sentiments de compassion envers celui qui se trouve dans le besoin, mais aussi à vouloir agir en sa faveur. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 3, verset 18, nous exhorte à aimer notre prochain en agissant favorablement envers lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Prenons pour illustration la parabole du bon samaritain racontée par Jésus. Dans cette parabole, des voleurs, après avoir meurtri un homme, l'abandonnent, évanoui sur le bord de la route. Parce qu'il a été agressé, cet homme lutte contre la mort et a besoin d'être secouru. Cette parabole nous révèle aussi que deux hommes passent, un à un devant lui. Or, aucun d'eux ne s'arrête, aucun d'eux ne désire lui offrir son secours. Bien au contraire, l'un et l'autre poursuivent leur route, totalement indifférents. Or, selon l'enseignement de cette parabole, ces deux hommes sont considérés comme des gens pieux et respectables. Pourtant, malgré toutes leurs bonnes apparences, ils n'exerceront aucune miséricorde envers leurs prochains. Les besoins de ceux qui nous sont proches, comme de ceux qui sont loin, ne manquent pas. Et il est peut-être facile de fermer son cœur, particulièrement si nous avons nos propres préoccupations. Toutefois, le chrétien est appelé à ne pas être insensible au malheur des autres et, dans la mesure de possible, à aimer son prochain, en étant pour lui une aide, un secours dans la détresse. Être miséricordieux, c'est également être totalement désintéressé. C'est-à-dire que notre désir d'aider ne doit pas être motivé par l'attente d'une récompense. Il est parfois facile de rendre des services à ceux qui nous en font. Toutefois, bien des personnes ont besoin d'un secours, et si nous ne leur apportions, elles ne pourraient peut-être jamais nous le rendre en quoi que ce soit. Or, celui qui est miséricordieux vient auprès de ces personnes parce qu'il trouve son plaisir à aimer, comme Dieu l'aime lui-même. Pour conclure cette méditation, écoutons les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 6, versets 32 à 36. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leur ami. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendiez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursé, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui.
Merci Charles de nous avoir rappelé ces paroles. Nous ne pouvons pas nous contenter de simplement croire en Jésus et d'attendre de lui toutes choses. Notre foi doit nous conduire à changer de conduite, à rechercher le bien et à être ainsi différent de ceux qui ne croient pas en notre Seigneur.
En fait, ce sera le sujet de notre prochaine émission, car Étienne nous expliquera ce que la Bible veut dire lorsqu'elle nous exhorte à marcher dans la lumière. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.